Poésie sur parole. André Velter.
Ce soir, quelques poèmes de Jules Roy, extraits de son recueil « L'homme à la licorne » publié chez Albin Michel. Mais tout de suite, un entretien avec Georges Walter, préfacier des Coplas sous occupation de Frédéric de Tovarniki. Entretien à écouter désormais comme un hommage amical, puisque Frédéric de Tovarniki est mort le lendemain même de notre enregistrement. Georges Walter, vous êtes écrivain, essayiste, journaliste, vous avez été grand reporter. Vous publiez un important livre de mémoire chez Talendier intitulé « Souvenirs curieux d'une espèce de Hongrois ». Mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer l'œuvre poétique de l'un de vos proches amis, Frédéric de Tovarniki, dont les éditions Mélis publient « Coplas sous occupation ». Quand je dis « publie », je devrais peut-être dire « ressuscite », puisque ces poèmes datent des années 40. Dans votre longue et on peut dire fraternelle préface, vous retracez le parcours pour le moins aventureux de Frédéric de Tovarniki, avant tout reconnu comme heideggerien majeur, mais jamais jusqu'à ce jour comme poète. Alors on peut se dire, mais que s'est-il donc passé? Pourquoi ces Coplas sous occupation de 1939 à 1945, puis l'abandon total d'une veine poétique qui était pourtant si bien engagée? C'est des poèmes qui s'imposent immédiatement à la lecture. Et pourtant, Tovarniki, à partir de 1945, n'écrit plus de poésie. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Vous savez, c'est un personnage d'une totale originalité. Le mot est faible. Le mot est faible. On dirait, en effet, que, bon, combien, 60 ans après, bon, on dirait vraiment, vous savez, qu'on vient de, après une plongée, enfin 60 ans après, trouver dans le Titanic une de la vaisselle précieuse. C'est un peu l'effet que ça fait. Bon. Alors, le Titanic, ce n'est pas une comparaison exagérée, parce que ces poèmes et tout ça, et ce moment de vie de notre jeunesse, c'était face à la mort, à la destruction. Or, c'était, nous, c'était très joyeux, ce n'était pas sinistre notre vie. Et ces poèmes en témoignent. Qui ont de la fraîcheur de la jeunesse de nos 18 ans, mais menacés par la guerre. Alors, Coplas sous occupation, Picasso avait trouvé que cette poésie avait le charme des Coplas andalous. Alors, on appelait ça Coplas sous occupation. Mais lui, il n'a jamais eu l'intention de publier quoi que ce soit. C'est des poèmes qui traînaient. On les connaissait un peu par cœur. On les fredonnait plutôt qu'on ne les déclamait pas. On les fredonnait comme des chansons. Et puis, bon, il ne prétendait pas. Alors, il était aussi poète, c'est vrai. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Heidegger. Bon, à ce moment-là, à Nice, ben, nous étions trois types un peu à part. Il y avait parmi nous un génie qui s'appelait Rastier. Bon, ça, c'était notre Rimbaud, etc. Tovarniki, alors lui, c'était, moi, je suis une espèce de Hongrois. Tovarniki, c'était une espèce de Polonais. Rastier était un Français d'une vieille famille niçoise. Il avait écrit trois tragédies. Il écrivait une pièce en trois semaines. Tovarniki était malarméen, philosophe wagnérien, mettait la musique de Wagner très fort. Et au moment où il y avait déjà les Allemands qui occupaient le nord de la France, on se demandait si c'était un Allemand amateur de Wagner ou un Français. Il troublait les gens, etc. Bon, on tenait le haut du pavé et puis... Bon, on faisait vraiment les imbéciles et on s'amusait beaucoup.
Mais on a l'impression que ce sont des poèmes qui sont écrits pour les partager immédiatement dans le quotidien. C'est-à-dire que ça a effectivement cette fraîcheur de la consommation immédiate, comme des primeurs.
Exactement. Ce que vous dites, c'est vraiment une très bonne définition de ces poèmes. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé leur fraîcheur là aujourd'hui. Et ils sont attachés quand même. Alors, il y a des points de repère parce que... Ensuite, il est venu à Paris. Alors, il y en a qui sont marqués, par exemple, la complainte du Royal Pigalle. Alors là, c'était sous l'occupation. Là, ça devenait très dangereux. Il était avec des faux papiers. Vous savez, un jour, ils sont venus me chercher. On était trois. Bon, ils étaient deux. Ils sont venus me chercher. Il y avait la théorie de la gueule du loup. On s'est dit, voilà, pour se cacher, parce qu'on était tous menacés, ou soit pas à cause de nos origines, soit parce qu'on avait l'âge d'aller au travail obligatoire en Allemagne, etc. Bon. Donc, on n'avait pas à exister. Bon. Et donc, ils sont venus. Alors, la théorie, c'était qu'il faut aller dans la gueule du loup. Et à un moment donné, on se demandait si on n'irait pas en Allemagne avec une troupe de théâtre pour jouer pour les ouvriers qui étaient là-bas, etc. Bon, toutes sortes de délires. Et alors, ils sont venus me chercher un jour avec, dans une valise, un costume, une robe de franciscain, robe de bure, que moi, je mets ça parce qu'à cause de mon physique, enfin, je sais pas, moi, j'avais l'air un peu oriental quand même par rapport à eux. Bon, ils faisaient plus à rien que moi. Et bon, il se disait qu'avec ma robe de bure, je passerais inaperçu. Moi, ce qui était vraiment de la folie furieuse. Au bout de 24 heures, on s'est dit que là, on déconnait quand même, il ne fallait pas faire ça. Et puis, on n'est pas parti, je n'ai pas mis là. Je n'ai pas voyagé en franciscain. Bon. Et alors, donc, il est allé à Paris. Alors, à Paris, bon, la complainte du Royal Pigalle, alors c'était des hôtels où la Gestapo faisait des visites de temps en temps, où il survivait comme il pouvait, enfin bon. Et beaucoup de poèmes sont, il y avait ses amours, les filles, Mandragore, mamie, ma chère, Mandragore, c'était une très belle portugaise, enfin bon.
Aujourd'hui, quand vous présentez dans la longue préface, je dis bien, ces coplas, vous êtes quand même obligé de retracer l'ensemble du parcours de Frédéric de Tovarniki, parce que ce n'est pas parce qu'il a écrit ces coplas qu'il est connu aujourd'hui, c'est au contraire bien tout sûr. Ce qu'il a fait par la suite, et dans des domaines extraordinairement divers. Il a évidemment écrit beaucoup à propos d'Heidegger, mais... Il y a un autre livre qui paraît ces jours-ci, qui est l'extraordinaire scénario qui n'a jamais été tourné par Alain Resnais, consacré à Harry Dixon. Ouais, voilà. C'est un touche-à-tout, c'est un génie qui touche à tout.
Mais je veux dire, une des clés du personnage, c'est quand même, si vous voulez prendre un seul mot connu, justement, il ne voulait pas être connu. Ça a été systématique. Il voulait, comme s'il ne voulait pas avoir d'identité. Ouais, c'était une attitude que moi j'admirais beaucoup, que je trouvais très noble. Parce qu'il a dit, il avait 20 ans, il a dit « Moi, je ne veux pas ajouter à tout ce qui est écrit, pour rien au monde. » Et donc, finalement... Et alors, c'était un personnage, touche-à-tout, mais qui avait aussi quand même un don absolument unique, qui fait qu'il était obligé de se cacher à Paris, dans les hôtels, pour pas qu'on lui mette le grappin dessus, pour que des auteurs ne lui mettent pas le grappin dessus. Parce qu'on voulait qu'il lise les manuscrits, les textes, parce qu'il avait un œil électronique pour détecter les défauts. Et ça, toute sa vie, c'était comme ça. Et moi, je dois dire, dans ce long compagnonnage, je n'ai jamais écrit quelque chose sans lui faire lire, sans qu'il me le critique, etc. Parce qu'il mettait le doigt sur le défaut d'une façon extraordinaire. Il m'a sauvé d'ailleurs tout un livre comme ça, parce que du naufrage. Et alors, il était recherché pour ça. Bon. Et pour le reste, c'était une espèce de vagabondage à travers tout ce qui avait intéressant dans notre temps. Il détectait ce qui était important, intéressant, dans la peinture, dans l'architecture, Et puis ensuite, à un moment donné, il s'est occupé des dissidents soviétiques, de Solzhenitsyn. Il tombait toujours des lieux. Et bon, il fallait quand même qu'il gagne sa vie de temps en temps. Il la gagnait jamais. Mais enfin, de temps en temps, alors moi je l'ai introduit, par exemple, il a écrit pour l'Express, puis Le Point après, etc. Bon, il a écrit des choses très brillantes. Et puis, surtout, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain de la guerre, dans les décombres de l'Allemagne, c'est la rencontre avec Heidegger. Alors là, il est devenu fou de Heidegger, comme s'il avait rencontré Descartes. Et là, c'était fini, il n'y avait plus rien d'autre que la philosophie. Et là, bon, il est parti dans des sentiers où moi, je n'ai jamais pu le suivre, parce que
c'est quand même étonnant. Dans la légèreté dont on parlait tout à l'heure avec ce rapport au coplas andalou, enfin, cette façon presque de danser sa vie, dangereusement certes, oui, mais quand même de la danser, et après d'entrer en heideggerisme à un moment où c'était quand même pas la chose la plus à la mode.
Oui, non, mais c'est un fou. C'est un fou de génie.
Et Harry Dixon, ça arrive comment ?
Alors, Harry Dixon, bon, ça, c'est encore quelque chose qui n'a pas réussi, qui n'a pas pu se faire. Il a passé 10 ans. Il n'y avait que des... Alors, ça, c'est les désastres. Il n'y avait que des désastres, en plus, dans sa vie. Parce que Harry Dixon, moi, je voyais l'écriture, l'idée, enfin, la René voulait, c'était des fascicules, vous savez, qu'on vendait dans les kiosques à journaux. Alain René est devenu fou de ce truc-là, mais il voulait tourner ça avec, Laurence Olivier, qui était pris pour 10 ans, des trucs comme ça. Bon, alors successivement. Bon, alors cette affaire de Harry Dixon, c'est un véritable roman que j'ai failli écrire d'ailleurs, un roman noir, où les trois personnages principaux, le producteur Anatole Daumont, Alain René, le cinéaste, et Frédéric Tomarnicki, le scénariste, on était arrivé au point de ne plus vouloir s'adresser la parole. C'était commode pour faire un film. Hein. Alors moi, je servais un peu de facteur, de messager, pour essayer. Et alors je disais, ah, on a reçu un télégramme, Paul Newman prend le rôle. Alain René, en 5 minutes, dit, ah non, trop américain, ça va pas. Bon, tout s'effondrait à nouveau. Et ça a été comme ça pendant près de 10 ans.
Et aujourd'hui paraît le scénario.
Et aujourd'hui paraît un morceau, parce que ce qu'il a écrit, c'est l'équivalent de presque de l'œuvre de Balzac. C'est pas croyable ce qu'il a écrit. Sans toucher d'argent, enfin presque rien, vraiment de 3 sous. De la ruine de tout, de sa vie personnelle, de tout, etc. Bon, voilà, c'était l'affaire Harry Dixon. Et voilà que maintenant, à cause de la curiosité d'une université américaine de Virginie, qui a étudié l'œuvre cinématographique d'Alain René, on a voulu récupérer ces dialogues et qui viennent d'être publiés chez un éditeur français dans une très belle édition. Langlois dit que le sort du cinéma français aurait changé si ce film avait été tourné. Bon, ben voilà, c'est fini maintenant. Il
sera donc, en fait, Frédéric de Tovarniki, que ce soit en poésie, en philosophie ou en tant que scénariste, ça restera un personnage qui aura quand même réussi à traverser pas mal de désastres.
Oui.
Et à survivre.
Oui, il a survécu étrangement. Il a pu survivre. On se demande comment. Et bon, mais il a eu la, si vous voulez, la satisfaction, le bonheur de fréquenter ce qu'il y avait de plus intéressant dans le siècle, on peut dire. Et ça, il ne les a pas ratés. Les hommes enflammés des cités sans couleur, de beaux oiseaux tueurs fondés sur les étés. Soldats, vous claironniez autour des jolies femmes, soldats, les vieilles dames passaient sans regarder. On voyait mal les gens, des races les guettaient, les fous suivaient en paix de vieux enterrements. Pitié pour les amis qui burent sans fontaine, pitié, mon capitaine, pour votre vieux fusil. Mondragor, mamie, ma chère, beau marchand, vous aviez raison, j'ai fait le tour de nos bagages. L'oiseau de pluie est en prison et nos Pérous sont en voyage, marchandez nos 4 saisons. Mandragore, ô mamie ma chère, la concierge est à l'opéra. Souviens-toi des 1001 guerres dans le vieil hôtel militaire où les gens ne revenaient pas. Quand les requins flambaient au gibre, nous, ma folle, on faisait les morts. Il faut manger pour vivre. Je revendais tes mauvais livres au libraire Bon Labrador. Voler carreaux des lampadaires, nous promettons de vrais pays, du Luxembourg au Quai Voltaire, coupez-moi ces éclats de verre, l'un commence ou l'autre finit. C'est mal de parler d'elle, demain viendra le temps qu'il faut, oiseau de pluie, drôle d'oiseau, ma chanson a du plomb dans l'aile, puis s'envole à coups de ciseaux. Que voulez-vous, mon vieux Paris, Paris de France et de Navarre? J'y ai laissé 12 guitares, et puis la femme que j'y pris. J'y ai laissé monter les nuits, tomber des gens, la pluie, et même j'y ai laissé 12 poèmes que je n'y ai jamais écrits. J'y ai laissé de bons génies, chapeau bas les bonnes d'enfants, faire la pluie et le beau temps, dans les pleins ciels des brasseries. J'y ai gagné l'enturelu de quoi fréter 100 bateaux-cages, mon vieux Paris, mon Moyen-Âge, 20 clippers en passé dessus. Et l'amour, qu'allons-nous en faire? Lundi, jeudi et vendredi, Amstramgram, les États-Unis, s'en iront, n'iront pas en guerre. Et l'amour, qu'allons-nous en faire? Ah, l'amour ne tient qu'à un fil. Irons-nous chez les commissaires? Sainte Russie, ainsi soit-il.